Votre grand journal du soir, François Claus, Thierry Dagiral, bienvenue, il est 19h.
On a de plus en plus de sujets jeunes qui nous appellent, qui n'ont pas de problème de santé particulier, mais qui ont les symptômes du Covid-19.
Comme à Quiberon, comme en Nouvelle-Aquitaine, les autorités maintenant dans le département du Nord, si proche de la Belgique où le virus circule de nouveau activement, transmis par des jeunes en vacances, s'inquiètent. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut pas de rendre obligatoire le port du masque dans l'espace public et dans la rue.
Le jet-ouf de Gérald Darmanin provoque la colère du père de Cédric Chouviat. Le gouvernement soutient son ministre de l'Intérieur.
C'est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans, particulièrement en été, les noyades. Opération prévention avec les pompiers sur les plages du Var.
Jacqueline Sauvage est éteinte à l'âge de 72 ans. Celle qui incarna le combat contre la violence conjugale n'aura profité que 4 ans de la grâce accordée par François Hollande en 2016.
Nous aurions dû, Thierry, porter dès ce soir notre chemise blanche et notre bandana rouge pour faire la fête à Bayonne au milieu des Peñas, mais pour la première fois depuis 132 ans, Covid oblige, Bayonne ne fera pas la fête. La Bourse de Paris, plutôt à la fête, en hausse de 0,60% à 4 958 points.
La tendance météo, Valérie Darmon, attention canicule.
6 départements sont désormais placés en vigilance orange pour canicule. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie avec des valeurs annoncées pour vendredi de plus de 40 degrés. Cela dit, il fera chaud absolument partout. J'y reviens tout à l'heure dans le détail, bien évidemment.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Thierry Dagiral, François Claus.
La préfecture du département du Nord confirme ce soir être en discussion avec l'Agence régionale de santé locale et pourrait prochainement prendre un arrêté pour rendre, comme en Mayenne, le port du masque obligatoire dans la rue et dans l'espace public. Les autorités s'inquiètent en effet de la recrudescence de l'épidémie dans le pays voisin. La Belgique redoute une accélération de la circulation d'un virus qui ne connaît pas les frontières et qui semble toucher bel et bien des populations de plus en plus jeunes. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Maximilien Carlier, qui a passé l'après-midi auprès des urgentistes du SAMU 59.
Le SAMU, bonjour.
Des appels pour suspicion de Covid en hausse, une cinquantaine par jour, alors que début juillet, c'était 5-10 maximum. Grégory, assistant de régulation médicale.
On a de plus en plus de sujets jeunes qui nous appellent, qui n'ont pas de problème de santé particulier, mais qui ont les symptômes du Covid-19.
Fatigue, fièvre, toux, une recrudescence récente, signe d'un relâchement chez une partie de la population, les 15-45 ans, comme l'explique Roch Joly, c'est le chef du service adjoint au SAMU.
Cette tranche d'âge ne se protège pas bien, n'applique pas les mesures barrières correctes, et c'est eux qui participent à la propagation que nous connaissons actuellement. C'est eux qui vont amener la maladie à leurs proches. Ils vont ramener la maladie chez eux. Ils vont ramener la maladie à leur tante, à leur grand-père, à leur grand-mère, ou ils vont la ramener au mariage. Typiquement, on a des contaminations qui se font dans les mariages. En famille, on ne met pas les masques. On ne va pas mettre les masques pour le mariage, bien entendu. Hein, et c'est vraiment là où on commet l'erreur grave.
Et cet urgentiste appelle à la vigilance. Le virus circule bien plus dans ce département, oui, mais il n'est pas trop tard pour freiner l'épidémie. Selon lui, le port du masque obligatoire à l'extérieur serait une solution. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et en déplacement dans les Yvelines, le ministre de la Santé, Olivier Véran, confirme que de telles mesures pourraient s'étendre localement en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Le gouvernement qui envisage également de réquisitionner un certain nombre de laboratoires pour répondre à une demande de plus en plus soutenue de tests.
Emmanuel Macron, à l'issue du Conseil des ministres le dernier de la saison, a demandé à tout son gouvernement de rester en tout cas en état de veille permanente.
On dénombre en effet 228 foyers actifs en France. À Quiberon, le nombre de malades a doublé. 72 personnes sont aujourd'hui touchées par le virus.
Sur Europe 1, le père de Cédric Chouviat exprime son indignation et sa colère ce soir.
Oui, parce que Christian Chouviat n'a pas du tout apprécié le terme employé par le ministre Gérald Darmanin hier devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Quand j'entends le mot « violence policière », j'étouffe, confiait le ministre. J'étouffe, ce furent prononcés à cette reprise les derniers mots de Cédric Chouviat, ce chauffeur-livreur mort asphyxié lors d'un simple contrôle routier par trois agents qui appliquaient alors un plaquage ventral.
J'étouffe. Comment on peut sortir ça de sa bouche quand on est le premier flic de France? Mais c'est scandaleux. On vit un drame, c'est qu'on puisse sortir des mots pareils à une famille qui est en deuil, qui est en pleine bataille juridique, contre quatre individus. Mon fils a 17 fois « j'étouffe ». Et lui dit qu'il en a marre qu'on attaque les violences policières. Et il dit « j'en étouffe » d'entendre ça. Il a blessé toute la famille, vous vous rendez compte? Non seulement il se permet de sortir des propos comme ça, mais il n'a toujours pas mis à pied les quatre individus. Mais franchement, c'est une révolte. J'ai de la révolte en moi, là. Toute la famille, on est toujours dans notre tête. On est toujours le 3 janvier. Nous, on n'a rien oublié. On en remet à la justice. Depuis le début, je crie haut et fort que j'ai confiance en la justice. comme je crie haut et fort au nom de toute la famille, qu'on n'a rien contre la police, qu'on n'a rien contre les policiers. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de propos coléreux. Mais il faut tout simplement comprendre qu'on ne peut pas entendre des propos comme ça.
Christian Chouviat au micro de Sarah Calamand.
Et en tout cas, dans l'entourage de Gérald Darmanin, on affirme que dans ce j'étouffe, il n'y avait aucune arrière-pensée.
C'est la ligne de défense confirmée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres au micro d'Adrien Beck.
Évidemment, ce terme n'a pas été employé en faisant référence à la situation de ce qui est arrivé à M. Chouviat. Évidemment, la question ne portait pas sur ce point-là et ça n'est évidemment pas lié à cette situation. Et c'est important de le dire et vous avez raison de poser la question puisque j'ai vu que des questions étaient posées, notamment par la famille. Mais je tiens à être clair sur ce point-là.
Voilà Gabriel Attal, ce qu'il disait à l'issue du Conseil des ministres au micro d'Adrien Beck.
À présent, ce fléau, c'est le fléau de l'été. Les noyades, les pompiers du Var se mobilisent préventivement, François.
On rappellera que la noyade est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. On en dénombre près d'un millier chaque année dans notre pays. Le gouvernement a d'ailleurs lancé une grande campagne de sensibilisation. Et durant tout l'été, les pompiers dans le département du Var se déploient sur les plages, initiant enfants et parents non seulement au risque de la noyade, mais surtout aux gestes qui peuvent sauver. Reportage à Sanary du correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Ah ben on est là pour ça aujourd'hui, pour apprendre des petites astuces pour apprendre à nager.
Et avant de jouer dans l'eau et sur la plage, les enfants de ce centre aéré du Revest, près de Toulon, sont sensibilisés aux bons gestes.
C'est de rentrer dans l'eau progressivement, de se mouiller la nuque.
L'adjudant Aurélien Mikaelef assure les brevets de natation pour les sapeurs-pompiers du Var.
Tout à l'heure, on fera de l'immersion aussi, on ira chercher du sable au fond de l'eau. À chaque petit jeu, il y a un aspect pédagogique pour leur faire gagner de l'aisance aquatique. Le premier qui fait déborder la poubelle d'eau a gagné. Donne le saut, Louis.
Plusieurs journées de sensibilisation seront organisées cet été sur les plages. L'adjudant Pierre-Élisée Bartoli de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var.
Depuis le mois de juin, on est à 61 noyades contre 60 l'année dernière sur la saison estivale complète. Donc on se devait d'être présent sur les plages et en particulier chez les enfants. Que ça reste ludique, mais qu'ils apprennent à évoluer dans l'eau en toute sécurité.
Et les enfants sont aussi initiés aux gestes qui sauvent. En cas de noyade, chaque seconde est comptée. Il faut avoir les bons réflexes.
Est-ce qu'il y a un poste de secours sur cette plage?
Oui, il est là-bas. En plus, il y a écrit poste de secours. Ça sert à aider.
Sanary, Frédéric Michel, Europe 1.
Les gendarmes de Gironde qui enquêtent sur les causes du premier gros feu de pinette de l'été qui a détruit, rappelons-le, 300 hectares sur la commune de Tuzan, recoupent des témoignages. C'est peut-être un simple mégot de cigarette sur une terre particulièrement asséchée qui serait à l'origine du sinistre. C'était le plus vaste camp de migrants de France. 2000 personnes qui se massaient dans des conditions indignes, potentiellement explosives en temps d'épidémie, ont été évacuées par la police ce matin, tous testés au coronavirus. Les associations sur le terrain redoutent qu'après une nuit ou deux dans un gymnase, ces migrants, provenant essentiellement d'Afghanistan et de la Corne de l'Afrique, se retrouvent de nouveau à la rue dans quelques heures.
Il est 19h08. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Claus, Thierry Dagirel.
Elle milita de longues années pour obtenir sa grâce. La comédienne Eva Darlan rend hommage à Jacqueline Sauvage, dont on a appris aujourd'hui le décès. On l'entendra dans un instant. A tout de suite.
Le journal La Suite, François Claus, Thierry Dagirel.
Elle était le symbole du combat des femmes victimes de violences conjugales. Jacqueline Sauvage, 72 ans, est décédée.
Et elle n'aura finalement pas profité bien longtemps de cette liberté accordée par la grâce du président François Hollande en 2016. Elle qui fut condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué de 3 balles dans le dos un mari violent qui, tout au long de 4 décennies, ne cessera de la frapper. Pendant ces 4 années d'emprisonnement, elle sera soutenue par toutes celles et tous ceux qui dénoncent les violences faites aux femmes, trop souvent impunie. Un comité de soutien que présidait la comédienne Eva Darlan.
Déjà, je trouve que ça a été une histoire terrible où une femme a beaucoup souffert. Elle a pu représenter la souffrance des autres qui étaient cachées, qui étaient tues. Et tout d'un coup, c'était une souffrance qui a été mise au grand jour. Alors, évidemment, on a réussi à la sortir de prison. Merci François Hollande et merci à toutes les militantes et les militants qui ont œuvré pour ça, mais que de souffrance. Mais surtout, est-ce que la souffrance s'est arrêtée pour autant? Je ne sais pas. Je crois que cette médiatisation terrible, ce projecteur aveuglant qui a été mis sur cette affaire, n'a pas rendu ces femmes plus heureuses. Puis finalement, Jacqueline a a eu peu d'années sereines.
Voilà ce que disait donc, interrogée par Hélène Terzian, la comédienne Eva Darlan. La justice française permet aux leaders basques séparatistes, anciens leaders de l'ETA, emprisonnés dans notre pays, de retrouver une part de liberté, mais il restera sous bracelet électronique, assigné à résidence à Paris, alors qu'on le rappelle, les autorités espagnoles réclament son extradition.
Allez, on va à Bayonne pour terminer, et ça, ce soir, vous ne l'entendrez pas.
Et oui, cela aurait dû être aujourd'hui et pour 5 jours l'un des grands rendez-vous festifs de l'été dans notre pays, les fameuses fêtes de Bayonne, pour la première fois depuis 1932, date de leur création. Eh bien, on va devoir à Bayonne, comme ailleurs en France, se cloîtrer, se protéger. Bayonne sans péna, sans banda, sans foulard rouge, ce ne sera pas tout à fait Bayonne. Sur Europe 1, le président du comité des fêtes, Henri Loquet, s'y résigne.
Ces 5 jours et ces 5 nuits de liesse sont un moment privilégié pour les Bayonnais et puis tous ceux qui viennent fréquenter notre ville. Alors il y a un certain nombre de mesures évidemment qui ont été prises et il appartiendra sous l'autorité du sous-préfet avec qui la ville a eu déjà beaucoup de réunions de faire respecter évidemment ces arrêtés municipaux qui ont été pris avec notamment la fermeture des cafés, des restaurants à 23h, avec l'interdiction de musique amplifiée ou de musique vivante sur l'espace public. Et vous imaginez ce que ça coûte à tout Bayonnais, à tout Basque, de ne pas pouvoir exprimer, évidemment, sa manière de faire la fête. Mais bien évidemment, ces mesures étaient indispensables.
Voilà ce que disait donc, il était ce matin en direct dans le journal de 8h de Théo Manval sur Europe 1, le président du comité des fêtes de Bayonne, Henri Loquet. On va se dire qu'on pourrait la fête 10 jours peut-être en 2021 pour compenser. Mais ce sera triste cette année.
Merci François Claus, rendez-vous 19h30 pour le rappel des titres.
Et tous les soirs à la fin du journal de 19h, Thierry, ce rendez-vous d'été, la bonne idée.
Et on tire un coup de chapeau tous les soirs bien sûr à une initiative. Bonsoir Bénédicte Longchal.
Bonsoir.
Vous venez de créer l'application et le guide du zéro déchet téléchargeable sur le site Green et Local. C'est quoi le but de cette application ?
Alors le but de l'application, c'est vraiment d'inciter les gens à consommer exclusivement localement.
Oui.
Donc l'application
a la référence.
Oui, tout à fait. C'est dans la tendance complètement.
Parfait.
Donc l'application, elle référence et elle géolocalise en fait les acteurs engagés dans une démarche éco-responsable dans tous les domaines et sur toute la France.
C'est ça, c'est dans toute la France. Pour l'instant, oui. Il y a combien de références ? Vous couvrez vraiment l'ensemble de la France ?
Ouais. Là, on est à 1300 et on est en ligne. Elle est téléchargeable depuis une quinzaine de jours.
D'accord, et ça fait 15 jours, c'est ça que vous avez ouvert hein ?
Oui. Ouais. Oui, tout à fait.
Vous le disiez, dans quel domaine, dans quel secteur vous êtes ? Vos propositions vont dans quel secteur ?
Alors, on a des propositions dans tous les domaines, ça veut dire que ça va du tourisme, l'alimentation évidemment, la restauration, mais aussi la mode, la santé, le bien-être, tout ce qui est autour de la maison et du jardin, et tout ce qui est autour des initiatives citoyennes.
D'accord, très bien.
Vraiment, c'est pour que toute la vie, toute notre vie soit éco-responsable.
Bénédicte, racontez-nous comment ça marche concrètement en fait.
Alors, vous téléchargez l'application. Déjà, pour les utilisateurs, on télécharge l'application, on se géolocalise. Et puis, à partir de là, on va voir, il y a les catégories qui sont en haut de l'écran avec la carte qui est centrée.
Ouais.
Et puis, si par exemple, pour l'instant, c'est catégorie par catégorie, parce qu'évidemment, on va faire évoluer l'application au fur et à mesure.
D'accord.
Donc, si vous cherchez, on va dire, un producteur dans le secteur de l'alimentation. Mmh. Et puis là, vous allez avoir des fiches en bas de l'écran.
D'accord.
De la plus proche à, on va dire, je crois qu'on a mis à peu près 25 km autour de vous.
Mmh.
Voilà, mais après, Parfait. Vous avez aussi un moteur de recherche.
Eh bien, il faut aller voir maintenant concrètement comment ça marche.
Voilà.
L'application s'appelle Green et Local et c'est donc à télécharger partout en France. Grand merci à vous, Bénédicte
Merci
Longchal.
Infiniment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La météo à présent. Valérie Darmon, prudence, hein, demain avec la canicule.
Eh oui, notamment à Bayonne où il fera 41 degrés, oui. Hein, donc pic de chaleur très intense à partir de ce jeudi, mais surtout vendredi avec cette fois 42 en vallée du Rhône. Vendredi qui sera la journée la plus chaude, eh oui, à l'ombre et sous abri, hein, la plus chaude de la semaine, excepté sur la façade atlantique où une baisse s'amorcera. Alors déjà demain, vos thermomètres afficheront 34 à 38 et localement 39 en vallée du Rhône en alerte canicule, car déjà la nuit prochaine, il y fera plus de 24 dans la nuit, entre 22 et 24. Hein. Aux heures les plus chaudes, demain, les thermomètres en Nouvelle-Aquitaine afficheront 36 à 40, 41 parfois, plus au nord, 32 à 35. Cette forte chaleur, elle va se maintenir donc jeudi et vendredi soir, avant une possible dégradation orageuse samedi. Le temps samedi qui restera lourd et humide, avec des températures qui vont atteindre encore 35 degrés en région lyonnaise. Tout cela sous un soleil de plomb, bien sûr.
Merci Valérie Darmon, météo des plages, 19h30.
Europe 1, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité Le Monde d'après dans un instant.
Oui, on sait bien de la polémique hein, sur l'application Stop Covid. Vous êtes 3% des Français à l'utiliser, soit plus de 2 millions d'utilisateurs. Est-ce que cela, ce sera cela finalement notre monde de demain, entre l'application qui nous trace, intelligence artificielle, un monde sans liberté individuelle pour l'interrogation ? On va poser la question à Patrice Franceschi, journaliste et aventurier dans 2 minutes sur Europe 1.
Il est 19h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral, et c'est l'heure de l'interview Le Monde d'après. Ce soir, quel monde demain avec les applications, les robots et l'intelligence artificielle? Vous recevez le journaliste et aventurier Patrice Franceschi.
Bonsoir Patrice Franceschi.
Bonsoir.
On va interroger ce soir avec vous nos libertés individuelles, comment elles peuvent façonner notre monde de demain. Depuis maintenant le 2 juin existe Stop Covid, cette application que vous avez combattue à plusieurs reprises. Pour vous, c'est quoi? C'est un bracelet électronique sanitaire qui touche
d'une certaine manière. Alors, je l'ai beaucoup combattu dans un tract de Gallimard qui s'appelait Bonjour Monsieur Orwell. Oui. Je constate que les Français n'ont pas vraiment accepté cette application. Elle a pas marché. Ils l'ont pas prise. Elle fonctionne pas.
Pas bien.
Ça veut dire que les Français sont prudents, intelligents et réfléchissent avant de faire n'importe quoi. Mmh. Pour la première fois dans l'histoire de notre démocratie, c'était l'État qui se proposait de surveiller finalement la population pour de bonnes raisons. C'est ça qui est très orwellien. Ouais. Pour votre bien, cher concitoyen, nous allons surveiller qui vous rencontrez, car il y aura peut-être des malades. C'est ça qui est inquiétant, c'est le fait que d'un seul coup, le privé et le public se joignaient pour contrôler la population. Mais faut de temps en temps accepter de se rappeler que le risque est consubstantiel à la vie et que sans risque, il n'y a pas de liberté.
Mais Patrice Franceschi, il y a eu des garde-fous, le consentement, le droit à l'effacement, la CNIL a donné son accord.
Elle n'a pas fait peut-être du bon travail ce jour-là. Encore une fois, ce qui était très différent avec déjà tout ce que nous abandonnons tous les jours au GAFA. Nous sommes surveillés, tracés, fliqués, tout ce que l'on veut. Nos données sont avalées, sont vendues, sont dispersées. Ouais. Tout ça, malheureusement, nous y consentons depuis très longtemps. Mais là, l'État s'en mêlait. C'était un peu différent. Ça se rajoutait. Et c'est pas très bon que ça se rajoute. Je pense qu'il faut accepter que, pour conserver l'essentiel, nos libertés, et toujours placer la liberté comme valeur suprême qui donne sens à toutes les autres, il faut prendre parfois un certain nombre de risques.
Mais j'ai l'impression, en vous écoutant, vous êtes contre le progrès finalement. La carte vitale, par exemple, a été un progrès. Nos passés médicaux y sont recensés et c'est un gain de temps pour le médecin.
Je ne suis évidemment pas contre le progrès. Je suis fasciné par le progrès humain qui stagne et moins fasciné par les progrès technologiques qui s'envolent. Et je pense que le fossé entre les deux est dangereux. C'est là que se situe le danger. Vous me parlez de la carte vitale, oui, c'est un esprit, c'est très commode. Mais en même temps, ça centralise absolument tout de vos données de santé. C'est pas très bon non plus. Chaque fois que le principe de facilité, de commodité, domine sur le principe de liberté, qui coûte beaucoup plus cher, ça coûte des efforts, etc., un danger menace. Ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre les faux progrès ou les contre-progrès pour que les vrais progrès puissent avancer, eux. Dans le cas de la carte vitale, est-ce qu'il est souhaitable, il est bon que la totalité des renseignements concernant ma santé soit centralisée quelque part par l'État? Je ne suis pas absolument certain, car on sait très bien que rien sur Internet, rien dans le numérique n'est absolument inviolable. Je ne suis pas certain qu'un jour les assureurs ou d'autres s'en emparent pour savoir au fond si je suis un bon client ou pas. Et c'est très dangereux, parce qu'évidemment il y a des garde-fous, mais on sait bien qu'ils ne valent pas grand-chose au final, qu'il y a les hackers, qu'il y a tout ce que l'on veut. Donc, Je dis simplement, n'avalons pas tout et n'importe quoi. Il faut chaque progrès humain, chaque progrès technologique doit être jugé à ce qu'il provoque ou pas comme progrès humain, s'il est bon pour l'humanité ou pas.
Ça veut dire que vous dites miette à l'intelligence artificielle, par exemple.
On nous la vend comme une valeur et non pas comme un outil.
Ouais.
C'est là qu'est le fossé. Admirer par avance l'intelligence artificielle. N'importe quel philosophe politique, n'importe quel être humain, n'importe quel écrivain dit « Attendez, je réfléchis d'abord. Je ne sais pas si ce que vous me proposez est une valeur ou un outil. » À l'évidence, l'intelligence artificielle est un outil, ce n'est pas une valeur. Cet outil, la façon dont il sera utilisé, comme un marteau, il tapera sur le clou et ça sera très bien, ou il tapera sur vos doigts et ce sera très mauvais. Donc, ne jugeons pas l'intelligence artificielle d'une manière, comment dirais-je, absolument naïve et en prenant tout ce qu'elle propose, mais regardons. On sait très bien, par exemple, pour l'intelligence artificielle, qu'elle risque de provoquer un chômage massif, inédit là aussi, jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Et peut créer de nouveaux emplois également.
Alors, il paraît, et je ne suis pas du tout un spécialiste, mais d'après toutes les études que j'ai lues récemment, il paraît que ce que ça produira comme emploi, contrairement à auparavant, pour chaque innovation, chaque nouveauté, les emplois que ça générera seront largement inférieurs à ceux que ça détruira. C'est ce que disent un certain nombre de spécialistes. Ceux qui évidemment ont intérêt à nous vendre l'intelligence artificielle pour tout, ne disent pas la même chose évidemment. Je ne suis pas certain que demain, il soit bien dans les EHPAD par exemple, que les gens soient soignés par des robots, pas par des êtres humains, voilà.
Vous êtes un aventurier, un marin, vous avez publié des textes avec Sylvain Tesson, Jean-Christophe Ruffin, Martin Hirsch, l'aventure Pourquoi faire aux éditions Point. Aujourd'hui, seul en mer, la technologie, la géolocalisation, c'est quand même un plus.
Ça dépend ce que vous faites. Si je veux être tranquille, si je recherche la liberté totale, si je n'ai pas envie qu'on sache où je suis, c'est pas très intéressant.
Mais en cas de problème de tracé, fiché, enregistré, on peut vous retrouver.
Mais c'est ce que je dis. La liberté a un prix. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être automatiquement retrouvé si c'est au prix de ma liberté? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Et j'ai connu l'époque où il n'y avait rien de tout cela et où finalement, ça obligeait l'homme à être vraiment humain. Totalement lui-même et avoir beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. À se reposer sur lui-même, sur ses camarades. C'était profondément humain, tout ce qu'il y avait avant. Dès que vous mettez trop de technologie et que ça transforme l'homme en juste un presse-bouton qui ne connaît plus rien, je dis, est-ce que vraiment ça m'intéresse ou pas? Mais à chacun, là-dessus, son opinion, si ce n'est sa vérité. En tout cas, la mer a toujours été un espace de liberté extraordinaire.
Ouais.
J'aimerais qu'il le reste, et je ne suis pas certain qu'une technologie massive dans ce dernier domaine ne supprime pas définitivement les toutes petites dernières libertés que l'on peut avoir. Par exemple, celle ben vous ne savez pas où je me trouve, et c'est vachement bien comme ça.
Ce monde de demain, il vous fait peur.
Il m'inquiète parce qu'il n'est pas du tout celui auquel je m'attendais, il n'est pas du tout celui qu'on nous promettait, et je ne parle même pas seulement des libertés. Si vous lisez attentivement avec les Kurdes là chez Gallimard, ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs est inquiétant d'un point de vue tout simplement militaire. Est-ce que vous savez que la course aux armements dans le monde n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que la Chine, par exemple, tous les 4 ans, construit l'équivalent de la flotte de guerre française? Ce surarmement général de tous les pays du monde, sauf de l'Europe, est assez inquiétant lui aussi. Je ne pense pas, aujourd'hui, qu'on puisse regarder le monde, sauf à être un ravi de la crèche, un ébahi, comme étant quelque chose de merveilleux qui nous attend. Et ne serait-ce que les problèmes environnementaux. Lequel d'entre nous pourrait dire que le réchauffement climatique, ces dérèglements, etc., sont tellement magnifiques que le monde de demain va être génial? Personne. Tout le monde aujourd'hui est inquiet, et c'est naturel, mais l'inquiétude ne pousse pas forcément au pessimisme. L'optimisme de l'action... Ça, franchement, je veux que ça me caractérise toujours.
Merci à vous, Patrice Franceschi.
Merci.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Restez avec nous à 19h30, tube d'été, avec un tube de 1983. Restez à l'écoute parce que c'est du très bon, vous allez voir. Et puis à 19h40, 12 France, on part en balade ce soir, direction Bordeaux. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1. On revient tout de suite.
Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Avec l'essentiel de l'actualité, François Claus.
228 foyers épidémiques actifs sur tout le territoire. 72 personnes finalement testées positives à Quiberon. Ils ont pour la plupart entre 18 et 25 ans. Olivier Véran préconise cet après-midi le port du masque, même dans la rue. Un conseil qui pourrait devenir une obligation dans le département du Nord, où l'agence régionale de santé est particulièrement inquiète de la recrudescence de l'épidémie dans le pays voisin, la Belgique. On s'inquiète également dans le monde du football. Un joueur du FC Séville a été testé positif, tout comme l'attaquant du Real Madrid, Mario Diaz. Séville, le 6 août prochain, et le Real, le 7 août prochain, sont pourtant appelés à jouer leur 8e de finale de Coupe d'Europe. Gracié par le président Hollande en 2016, après avoir passé 4 ans en prison, on a appris aujourd'hui le décès de Jacqueline Sauvage à l'âge de 72 ans. Elle était devenue le symbole en France de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle qui fut condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué de 3 coups de fusil dans le dos un mari violent qui l'a frappée. Il était le grand militant de la cause basque, il l'est toujours, figure de l'ETA, Josu Ternera, ancien chef de l'organisation séparatiste ETA, devrait être prochainement libéré, mais restera sous surveillance électronique. Ternera est aujourd'hui âgé de 70 ans. Il sera assigné à résidence à Paris, alors que la justice espagnole réclame toujours son extradition. La Bourse de Paris est en hausse ce soir, 0,60% à 4 958 points.
Merci beaucoup François Claus, on se donne rendez-vous demain jeudi ?
Absolument, à demain.
À demain. La météo des plages, Valérie Darmon. Alors Valérie, on va partir sur la côte atlantique à présent.
Eh oui, sur la côte où vous respirez davantage que dans les terres, parce que dans les terres, il va faire jusqu'à 41 degrés demain. Mais c'est vrai que sur le littoral atlantique, où il va faire très très beau évidemment, les valeurs s'échelonneront entre 32 du côté de la Baule jusqu'à 37 du côté du Cap Ferret, avec un océan extrêmement calme, entre 17 et 24 degrés pour la baignade. Très beau temps aussi sur la Manche, avec des températures en hausse évidemment, mais tout à fait respirables. 28 annoncés à Deauville, 34 à Saint-Brieuc, 22 à Perros-Guirec, 31 à Brest, une eau entre 17 et 20 degrés. Très beau temps aussi sur le pourtour méditerranéen, entre 31 à Marseille, 29 à Nice et 26 par exemple à Prades, et une eau entre 22 et 26 degrés. Mais au moins sur la Côte d'Azur, vous profitez de quelques nuages qui vont vous faire de l'ombre.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral. Dans un instant, direction la région bordelaise, dans Douce-France. Mais tout de suite, la culture avec Angèle Châtelier et Mathieu Charrier.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
On commence d'abord avec vous, Angèle, comme tous les soirs. Hein, c'est ce chouette rendez-vous tous les soirs après 19h30. Tube d'été, on part. Vous nous emmenez en quelle année?
Alors vous allez voir, c'est impossible de faire des chroniques sur les meilleurs tubes de l'été sans celui-ci.
Ah ouais.
Bah oui.
David Bowie.
Légendaire David Bowie et Let's Dance, tube de l'été 83, aussi l'un des plus gros succès de son immense carrière, hein, David Bowie, qui s'affiche alors dans un look très sobre, hein, costume blanc, cheveux blond platine, lui qui nous avait habitué à ses personnages de Ziggy Stardust ou Sin White Duke. Alors l'artiste qui se cache derrière Let's Dance, c'est Niles Rogers de Chic qui a dit « La collaboration avec David Bowie a changé ma vie ». Et on imagine aisément que le contraire est vrai aussi. Alors Niles Rogers a produit cet album de David Bowie qui a eu le plus de succès en quelques jours, production et mixage compris. La légende veut que les deux artistes se soient rencontrés par hasard dans un club. Ils ont discuté, ils ont échangé sur leurs goûts musicaux, tout ça, tout ça. Et l'alchimie s'est créée. Alors David Bowie réfléchissait alors à ce moment-là à faire un album un petit peu plus commercial.
Et visiblement, ça marche.
Ça a marché, carrément. Ouais. Let's Dance, cet album, c'est 10 millions d'exemplaires vendus. C'est aussi la première fois que David Bowie ne joue d'aucun instrument sur un de ses albums. Et enfin, c'est sur Let's Dance que l'on retrouve un autre tube, China Girl, paru pour la première fois en 77 dans l'album The Idiot d'Iggy Pop. Et il y a une vidéo de David Bowie qui est sortie des limbes, Thierry, qui fait écho à l'actualité de ces dernières semaines. Il est en pleine promotion de cet album, Let's Dance. On le voit en interview pour la chaîne MTV et il interpelle le journaliste. Il lui dit « Pourquoi vous ne diffusez pas d'artistes noirs sur votre chaîne ou bien seulement entre 2h et 6h du matin ?» Alors cette vidéo a fait le buzz, hein, alors que dans le monde, de nombreux pays dénoncent le racisme systémique et les violences policières.
David Bowie, Let's Dance, 1983. Merci beaucoup, Angèle.
À demain.
Et tout l'été, Mathieu, vous nous conseillez de lire ou de relire les meilleures bandes dessinées sorties cette année. Aujourd'hui, une bande dessinée de science-fiction, mais pas si éloignée que ça de notre futur proche.
Ça s'appelle Préférence Système, signé Hugo Bienvenu. Écoutez bien le pitch. On a tellement stocké de données en tout genre que la mémoire mondiale est saturée. On est en 2055, demain, quoi. À force de stocker des photos ou des vidéos de chats sur YouTube, il n'y a plus de place, même dans le fameux cloud. Alors l'État a recruté ce qu'il appelle des prophète, dont le rôle est très simple, définir ce qui peut être effacé des archives de la mémoire mondiale. Et notre héros, il s'appelle Yves, lui son rôle c'est de défendre auprès de ces prophètes réunis dans une sorte de tribunal, ce qui ne doit doit pas disparaître. Alors il a réussi à sauver les textes de Victor Hugo, ça c'est bon.
C'est
mais en revanche, pour 2001, l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Kubrick, eh bien c'est foutu. Le film, scénario, photo de tournage, tout doit partir aux oubliettes. Yves ne supporte pas l'idée, copie ses données pour ensuite les faire ingérer à son robot personnel. Et oui, on est en 2055, ce même robot qui l'assiste dans ses tâches quotidiennes. Écoutez, Hugo, bienvenue.
Si on a 6 verres d'eau, ben on ne peut pas mettre une rivière dedans, quoi. Donc il y a un moment donné où, quand on regarde la courbe de création de contenu et la courbe de création de contenant, je me suis dit, ok, à quel moment les courbes vont se croiser, et je vais peut-être commencer mon récit à ce moment-là, pour parler de la transmission, qui est le sujet central de tous mes bouquins. Et je me disais, vu les restrictions budgétaires, combien de temps on va pouvoir continuer à... Et donc après, je suis rentré dans la technique. En France, on a une législation sur le document qui n'est pas la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tout ne naît pas archive, en France, si. Voilà.
Et puis alors le robot dont je vous parlais, c'est désormais aussi lui qui porte l'enfant du couple, on est au-delà de la GPA. Bref, ce roman graphique non seulement nous interroge sur cette donnée qui va devenir si rare, la mémoire virtuelle, sur ce que seront aussi ces robots, quelle place ils occuperont dans notre vie. Et puis moi j'adore le dessin d'Hugo Bienvenu, très pop, très coloré, très art graphique. Donc voilà, ça s'appelle Préférence Système et vous trouvez ça chez De Noël Graphique.
Super idée, merci beaucoup Mathieu Charrier.
Merci.
Et tous les soirs dans votre grand journal, le coup de fil culture, la culture qui doit se réinventer cet été, Thierry.
Oui, on a de la chance ce soir, dit donc. Je vous emmène à Porquerolles, on est en face de Hyères dans le Var. Bonsoir Charles Carmignac.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la Fondation Carmignac et sur cette fabuleuse île, il y a un espace de 2000 mètres carrés transformé en salle d'exposition. Pour y voir quoi ?
Alors oui, déjà on est effectivement sous la surface de la Terre, mais on a plus l'impression d'être sous la mer en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, l'espace d'exposition est sous une maison et il y a un plafond aquatique qui laisse passer le lumière du soleil. Donc en fait, on a l'impression comme ça de vibration d'être quasiment sous l'eau.
D'accord.
Et ce qu'on montre dans cette atmosphère un petit peu subaquatique, c'est une grande exposition de photojournalisme qui propose une sorte de voyage à travers les 10 pays explorés par le prix Carmignac du photojournalisme.
D'accord.
Donc c'est 10 années de reportages qui sont très émouvants, poignants, des reportages de photos magnifiques. Sur des sujets qui sont d'actualité, c'est notre histoire actuelle. Et en fait, à un moment où vraiment la tension sur l'état de santé du monde était très fort, on n'a jamais autant regardé l'actualité pour beaucoup d'entre nous que ces dernières semaines, derniers mois, ça nous semblait important de faire remonter ces sujets à la surface.
Bien sûr. Il y a aussi en extérieur un jardin habillé d'œuvres.
Oui, alors ça c'est à l'intérieur. À l'extérieur, il y a tout un jardin de sculptures avec une nature qui est époustouflante. On est dans une forêt, Porquerolles, c'est une forêt qui est en pleine mer, et une forêt qui est préservée, qui est protégée par un parc national de Porquerolles. Et donc, à côté de la villa, il y a un jardin de sculptures, donc c'est une nature qui est éblouissante et qui est rythmée comme ça, jalonnée par des œuvres d'art qu'on a commandées à des artistes internationaux qui ont passé du temps ici, qui sont inspirés du lieu, de son histoire, de ses légendes, et qui ont créé des œuvres en résonance avec la nature.
Et fabuleux, il y a aussi du cinéma en plein air, c'est du mardi au dimanche de 10h à 18h, il y a des nocturnes également, et il est bon de réserver pour se renseigner sur Fondation Carmignac. carmignac.com. Merci à vous, merci beaucoup Charles Carmignac.
Merci. Bonsoir.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
C'est tous les soirs dans ce 18-20 12 France, on redécouvre nos belles régions de France. Ce soir, on part en Gironde, à Bordeaux. Embarquement immédiat dans 2 minutes sur Europe.
Il est 19h40 sur Europe 1, le grand journal du soir est en balade. Douce France avec le plein d'idées de sorties, de visites et à la découverte des produits régionaux. Nous sommes à Bordeaux ce soir, Thierry.
Ah oui, on est en plein cœur de la ville, près du boulevard Aliénor d'Aquitaine, dans un lieu construit durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancienne base sous-marine, qui est un monstre de béton indestructible. Et c'est là qu'étaient entretenus les sinistres U-boats nazis. Et cet espace monumental accueille désormais les bassins de lumière. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Oui, on parle là d'une transformation radicale. Cette structure de guerre impressionnante, noire, avec ses 4 bassins parallèles de 110 mètres de long et de 22 mètres de large, c'est là que venaient effectivement s'amarrer les sous-marins. Eh bien, ce bunker géant est aujourd'hui un écrin lumineux coloré, poétique et qui accueille une exposition d'œuvres numériques projetées sur ces murs de béton. Ici, à 10 minutes de tramway du centre de Bordeaux, c'est Augustin de Cointé qui dirige ce que l'on appelle désormais les bassins de lumière.
C'est un lieu qui a une vraie identité, qui est peut-être terrible, mais qui en tout cas qui est là. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis sur les murs, on n'a pas peint, on n'a pas tiré d'écran, etc. Le principe est d'habiller un lieu avec des images d'un peintre qu'on a choisi. C'est un dialogue entre le lieu, l'artiste sur lequel on travaille, par exemple Paul Klimt ou Klee, et le réalisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un diaporama, il y a un vrai travail subjectif. Les images vont se diffuser d'un endroit à l'autre, se répondre. C'est tout à fait scénographié par le lieu. Donc il y a un vrai parti pris artistique de la part de l'équipe de réalisation.
Et quand vous poussez la porte de ces bassins de lumière, vous êtes immédiatement pris par la singularité de cette déambulation en musique. Les couleurs des œuvres de Gustav Klimt et de Paul Klee habillent ces parois épaisses oppressantes grâce à la centaine de projecteurs et à des kilomètres de fibres optiques. Avant-goût avec Charlotte Falzon qui guide nos pas.
Sur 14 000 m² au total, on a 12 000 m² qui sont vidéoprojetés. Il y a cette réverbération et le mouvement de l'eau apporte une dimension visuelle absolument surprenante. C'est recréer une bulle de magie émotionnelle dans un décor ici de fleurs et de paysages lumineux.
Ça a l'air magnifique, hein. C'est une immersion, une bulle en effet, hein, pour reprendre le mot employé à l'instant. Stéphane, vous avez croisé des visiteurs qui parfois viennent d'assez loin.
Masqués, hein, crise sanitaire oblige, oui. Et conquis par cette expérience, rien à voir, vous l'avez compris, avec une exposition dans un musée classique.
Beaucoup d'émotions, c'est une très belle exposition, la scénographie est magnifique.
C'est pas statique comme il y a souvent des expositions avec des tableaux qui sont projetés mais qui sont plutôt statiques. Cette animation est fantastique et c'est, avec la musique, ces mouvements et ces œuvres d'art, c'est un ensemble extraordinaire.
On est vraiment plongé dans un univers fantastique, hein. Très belle réalisation.
On a l'impression d'être au centre des œuvres.
Les bassins de lumière, gros succès depuis l'ouverture, il faut le dire. Et parmi les visiteurs, je l'ai remarqué, de nombreux enfants absolument émerveillés.
J'imagine. Belle idée, merci. Merci Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux, Géraldine.
Oui, c'est ouvert de 10h à 19h.
Ouais.
Vous paierez 13,50€ en plein tarif et 11€ en tarif réduit.
C'est complet. Géraldine, allez, on se balade dans Bordeaux maintenant.
Allons-y.
Bonsoir Elodie Escusa.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice, coordinatrice de Alternatives Urbaines à Bordeaux. Vous proposez, vous, des balades solidaires. Ça veut dire quoi ?
En fait, ce sont des balades culturelles qui vont donner un autre regard sur la ville de Bordeaux et notamment sur ses quartiers les plus populaires. Mmh. Des balades commentées par des habitants qui sont dans une démarche d'insertion vers l'emploi.
D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de pas aller dans les quartiers super touristiques, mais au contraire de trouver des petits quartiers avec leur histoire et racontés par ceux qui ont vécu dans ces quartiers.
Exactement. C'est d'accord. Vraiment de faire ressortir des anecdotes, la mémoire des habitants, mm-hmm. et de montrer du patrimoine au sens large. Donc ça peut être un jardin partagé, du street art, l'histoire de nos cités également.
C'est vraiment une autre façon de découvrir Bordeaux. C'est intéressant ça. Un exemple de balade, par exemple, je voyais le quartier de l'arrière-gare, c'est ça, entre le fleuve et la voie ferrée.
Voilà, c'est ça. Alors là, c'est un quartier qui est en pleine rénovation urbaine en ce moment, mmh. avec une sorte de quartier de la défense, on pourrait dire, à Bordeaux, qui s'y installe.
Ouais.
Mais le centre, le quartier historique qui perdure, avec des petites échoppes, donc un contraste entre ancien et nouveau qui est intéressant.
Un autre quartier, par exemple, la cité sur le quartier de la Bastide.
C'est ça, cette balade a pas mal de succès. On est sur la rive droite, hein, de Bordeaux, de l'autre côté du fleuve. Mmh. Et on va emmener les promeneurs découvrir la cité de la Benoge, qui peut avoir une mauvaise réputation. Mais en fait, on découvre qu'il y a un parc paysager magnifique, des jeux pour enfants, et qu'il est agréable de s'y promener et qu'il y a des choses à découvrir.
Et les guides, du coup, qui sont eux-mêmes de ces quartiers, eux-mêmes de Bordeaux, gagnent aussi un peu d'argent. Donc, c'est donnant-donnant aussi. C'est intéressant pour eux également.
Exactement. Nos balades sont à prix libre, mais nos guides sont rémunérés à chaque balade et ils sont employés dans le cadre d'une ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique pour reprendre pied petit à petit, retrouver une activité, des compétences et aller ensuite vers l'emploi de leur choix.
Belle idée. Merci à vous, Elodie Escusa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la coordinatrice de Alternatives Urbaines. Géraldine, on peut se renseigner comment ?
Sur le site bordeaux.alternative-urbaine.com ou par téléphone au 07 67 65 24 84 et le prix est libre.
Alors, on dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry, une découverte à Bordeaux qui rime depuis les dernières élections avec écolo. Donc je vous ai choisi dans le quartier de la Bastide, Éclos, qui est classé l'hôtel le plus écolo de Bordeaux, bordé d'un potager urbain. Il concentre beaucoup d'initiatives en matière écologique, comme des panneaux photovoltaïques, et aussi des économiseurs d'énergie dans les chambres. Alors on est à mi-chemin, c'est l'originalité du lieu, entre l'auberge de jeunesse, avec des lits cases à 20 euros la nuit et des chambres individuelles dont le confort et l'esthétisme très design est particulièrement réussi.
Les tarifs, Philippe ?
Alors, les tarifs pour les chambres, il est assez bluffant puisqu'on est à 45 euros pour une chambre double. Voilà, et c'est vraiment bien. Et c'est à Éclos, à Bordeaux.
Merci beaucoup, Philippe. Bien sûr, rendez-vous demain.
Et à suivre dans votre grand journal d'histoire dans Douce France, Thierry Dagirel.
Dans la région de Bordeaux, bien sûr. On traverse la Garonne. On va rendre visite à nos producteurs, à nos restaurateurs du coin avec Marion Sauveur, bien sûr. À tout de suite.
Quand on poursuit notre balade dans Douce France et on se met à table, nous sommes en balade en Gironde, Thierry.
Et bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous nous parlez d'une laitue.
Et oui, elle répond au petit nom de Celtus ou laitue asperge.
Et on en a en studio, hein, c'est étrange.
Elle nous a été livrée par les vergers Saint-Eustache. Alors c'est une laitue bien différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Mmh. Non, elle ne pomme pas, elle ne pousse pas en boule.
C'est ça.
Non, ce ne sont pas ses feuilles qui sont les plus intéressantes chez elle, c'est son tronc. Parce que ses feuilles sont longues et étroites et surtout elles poussent sur une tige. Cette tige qui ressemble donc à une asperge. Un petit peu boursouflé et vert clair. Il y a vraiment de l'élégance dans l'air dans ce légume. Hein.
Ouais.
Et cette Celtus, vous la trouverez notamment dans les épiceries asiatiques sous le nom de Wosun, puisqu'en France, ça fait quelques années seulement que les chefs se sont mis à la cuisiner. On la trouve donc chez certains maraîchers aussi. Mmh. On va rejoindre l'un d'eux d'ailleurs, c'est Pierre Beauchard. On part donc de Bordeaux avec quelques cannelés, bien sûr, en poche, on n'oublie pas. Et on traverse la Garonne, on emprunte la départementale 10 jusqu'au Pout, jusqu'à la ferme, l'eau à la bouche.
Bonsoir Pierre Beauchard.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de légumes, de poissons également, grâce à une technique qu'on appelle l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie ?
Tout à fait. L'aquaponie, c'est la contraction de aquaculture et hydroponie.
Ouais.
L'aquaculture étant l'élevage de poissons, pour nous des truites arc-en-ciel. Et l'hydroponie, c'est de la culture hors sol de légumes.
D'accord.
Dans un circuit d'eau. Les deux élevages sont en symbiose dans le sens où nous, on élève nos poissons.
D'accord.
Et ce sont les déjections des poissons issues des bassins d'élevage.
Ah oui, d'accord.
Qui alimentent les bassins dans lesquels les plantes poussent. Mm-hmm. Et donc, les plantes se nourrissent des matières organiques issues des déjections de poissons.
Parfait, Marion.
Qui permet d'avoir un cercle vertueux entre ces deux.
Ah oui, oui.
Ces deux systèmes.
Et c'est une culture qui est très ancienne, puisque les Mayas et les Aztèques la pratiquaient au Mexique. Ils cultivaient leurs légumes en fait, sur des radeaux flottants à partir de roseaux et de joncs. C'est une pratique qui est revenue ici dans les années 70, un petit peu à la mode.
Mm-hmm.
Et donc, on a une culture hors sol avec des légumes qui ne sont pas en pleine terre, mais qui se nourrissent de ces déjections animales qui sont très riches.
Alors, Pierre Beauchard, vous, c'est la première saison que vous cultivez cette fameuse laitue là, que j'ai devant moi, laitue asperge. Et comment on la cultive ?
Alors la culture s'apparente à une culture de salade classique.
Mmh.
Je dirais il y a pas de technique particulière. Juste c'est quand même un peu plus long à pousser qu'une salade normale, dans le sens où le cœur, donc ce qui nous intéresse ici, on a bien compris, c'est le tronc de la salade. Il est quand même assez gros et dense et du coup ça pousse plus lentement qu'une salade qui fera uniquement des feuilles.
Et c'est pas facile de la trouver sur les marchés, c'est encore assez rare, hein.
Non, c'est un produit qui est très prisé des chefs parce que vraiment intéressant en termes de goût, c'est original.
Ouais.
Ça demande un petit peu de travail, un peu comme une asperge, il faut peler le tronc, donc la couche extérieure est assez fibreuse et le cœur par contre lui est très tendre.
Et ça a un goût particulier justement ?
Ça a une odeur et un goût vraiment particulier.
Ouais.
Une fois qu'on, nous quand on recueille, on stocke tous les légumes dans une caisse frigo et vraiment on a cette odeur très particulière qui prend le dessus sur le reste de nos...
D'accord. Okay.
De nos récoltes.
Parfait.
C'est assez typique.
Merci beaucoup. Merci
c'est
à vous.
Facile à décrire.
Merci à vous, Pierre Beauchard. On déguste vos légumes sur les tables donc, de la région, puisque vous dédiez votre production exclusivement au chef. Marion, on va continuer notre chemin.
Eh bien oui, on va reprendre la route, on va aller goûter cette laitue asperge. On part à une quinzaine de kilomètres de Pout jusqu'à l'une des agglomérations les plus anciennes de la région, c'est Vert.
Mmh.
On est au bord de la Dordogne, à deux pas du château. Et on s'arrête au restaurant Lune, une belle bâtisse où l'on retrouve Pierre Rigottier. Le chef propose une cuisine gourmande où il met en valeur les produits du terroir.
Bonsoir Pierre Rigottier.
Bonsoir.
Alors vous, comment vous travaillez la Celtus alors ?
Alors nous, ben, comme Pierre a dit, on épluche le tronc et on va le faire braiser avec son eau, son jus.
D'accord.
On va le cuire on va démarrer la cuisson avec un petit peu de beurre,
ouais.
du sel, une branche de thym, une gousse d'ail,
va cuire ça à couvert. Et en fait, la celsius va rendre son eau naturelle et va cuire dans son propre jus.
D'accord.
Voilà.
Vous faites une entrée avec cette celsius en entrée, par exemple. Faites-nous rêver un peu, là.
Alors, en ce moment, on fait un plat avec.
Allez, on fait un plat.
En ce moment, on l'a fait avec un pigeon, un pigeonneau. Et donc, on va faire rôtir le pigeon, on va faire confire les cuillères du pigeonneau à part.
D'accord.
Et on va prendre, alors, les feuilles qu'on ne consomme pas trop, on va faire une crème avec, purée, qui va ramener un peu de l'amertume au plat, parce que le tronc, autant les feuilles ont déjà l'amertume.
Quand on vous perd un petit peu, Pierre, ne partez pas, Pierre, on a trop faim. On vous perd un peu, ne bougez pas.
Et puis, on va ramener de l'amertume avec ses feuilles, comparé à la douceur du tronc. Et on va servir ça avec un jus de pigeon, on va mettre quelques olives noires.
Ah, c'est pas mal ça.
Parce qu'on est en été quand même. Et on va assaisonner, entre guillemets, tout ça avec de la tagette qui a un côté un peu anisé.
D'accord.
Et que j'aime beaucoup.
Et vous allez utiliser aussi les feuilles jaunes qui sont au milieu de cette celtus, les feuilles qui sont un petit peu plus jaunes. Voilà, elles vont être croquantes dans le plat.
On va les garder croquantes, on va juste les assaisonner avec un trait d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, un peu de piment d'Espelette, comme on mangerait une salade.
Et vous faites aussi une entrée qui est pas forcément en ce moment, mais une celtus avec une sorte de jambon de canard. En fait, c'est du magret séché cru.
Pas mal, ça.
Et donc
ça
donne envie. Avec...
Ah, Géraldine, vous connaissiez ça ou pas ?
Non, je ne connaissais pas du tout.
La celtus.
c'est une belle découverte.
Merci Pierre Rigottier. On déguste votre cuisine dans votre restaurant Lune, donc c'est à Vers et c'est au bord de la Dordogne et ça donne envie vraiment d'y aller. Merci beaucoup Marion Sauveur, on vous retrouve demain matin aux côtés de François Geffrier dans la matinale d'Europe 1.
Et oui, à 6h56 et 8h42, on fera des tartines de beurre, mais du beurre Charente-Poitou, puisqu'on y sera demain soir dans 12 France.
On dégustera demain soir ?
Mais oui, bien sûr aussi. Enfin, sympa.
À demain Marion.
À demain.
Dans un instant, le festival idéal d'Émilie Mazoyer. C'est tout l'été sur Europe 1 avec des lives ce soir. Que du bon, Eric Clapton et Alain Bachung.
Désir fou que rien ne chasse. Cœur transé reste sourd.
Que c'était bon.
Au cri des marchands de place.
L'immense Bachung qui nous a quittés en 2009 ce soir chez Émilie. Merci beaucoup Géraldine.
Merci Thierry.
On se donne rendez-vous demain.
À demain.
Avec plaisir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Christophe Pierrot à la réalisation. On se retrouve demain dès 18h sur Europe 1 pour écouter ensemble Le Monde Changé. Et dans une poignée de secondes, les infos avec Victor Dolande, mais tout de suite la météo. Valérie Darmon, le temps pour demain, oh là là, c'est la canicule.
Ah là là, avec les minimales qui vont aussi entre 9 et 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 23 au sud, ça va encore. Les maximales toujours en hausse, entre 24 et 30 sur les départements qui bordent la Manche, 30 à 36 sur le reste de la moitié nord, en Corse et au bord de la Méditerranée. Et là, 34 à 40 des Alpes au sud-ouest et toute la vallée du Rhône qui est déjà en alerte canicule. On parlait des Charentes tout à l'heure avec Marion, 40 annoncées à Angoulême demain. Côté ciel, la journée qui s'annonce bien ensoleillée et très chaude. Donc en montagne, le temps qui devient orageux à partir de la mi-journée. Sur le massif central et les Alpes, dans l'après-midi, ces orages parfois forts se déclenchent avec un fort risque de grêle et de bonnes rafales de vent. Et sur le reste de la France, le ciel qui est parfaitement bleu avec un vent de nord-est faible à modéré sur le littoral de la Manche l'après-midi et un léger vent d'autant en Occitanie très agréable.
Allez, attention à vous. Merci. Belle soirée à tous.